immobilier de tourisme au cœur des territoires, journée découverte en Savoie avec l'association Maison Familiale Fleur et Neige, à suivre depuis Aussois près de Modane sur Radio Imo et Radio Territoria.
Les amis, bonjour, toujours ici en Savoie, dans ce bon village d'Aussois, on est ravis d'être avec vous. Et je vais me permettre de refaire mon petit édito que j'ai fait tout à l'heure dans l'interview où j'avais le plaisir d'accueillir Émilie Bonivard, la députée Nathalie Furbert, conseillère départementale et adjointe, maire adjointe de la commune de Valsenis. J'ai le plaisir d'avoir sur le plateau Stéphane Boyer, le maire de Aussois, bonjour.
Oui, maire, ça suffira.
Oui, ça va suffire.
Bonjour et ouais. Bienvenue à Aussois.
Comment ça va, monsieur le maire ?
Très très bien, regardez, un temps splendide, une ouverture de station qui a pu lieu dans les temps, et une neige surtout providentielle, puisque on vient de récupérer à peu près 50 cm de neige fraîche. Donc voilà, une saison de bon augure.
Je crois reconnaître un léger accent savoyard. Merci d'être avec nous, Stéphane Boyer. Frédéric Legrand, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes architecte ?
Je représente la société OAP Architecture.
Voilà. Alors, vous allez nous parler aussi du projet, puisqu'on est là, ici, accueillis par nos hôtes, Fleur et Neige, ici, dans ce domaine magnifique, dont on va parler tout à l'heure, si vous voulez bien. Mais, monsieur le maire, je vous ai préparé quelque chose. Vous rappelez, il y a quelques années, quand on aimait Max Meynier, les routiers sont sympas, on aimait les grands animateurs de radio. Vous vous rappelez le jeu des 1000 francs, où tous les jours, on avait Lucien Jeunesse qui allait dans les villages de France. Alors, je me suis permis, si vous êtes d'accord, de faire un édito. Je l'ai déjà fait tout à l'heure avec la députée et la conseillère départementale. Si vous permettez, pour vous, je le fais. Ça vous va ?
Très bien, avec plaisir.
Alors, on va recommencer. Vous savez, vous rappelez, Lucien Jeunesse a commencé par « Chers amis, bonjour, nous voici ici dans le village d'Aussois, accueillis par les Aussoyens et les Aussoyennes. On est proche du parc archéologique de Loz. Ce site témoigne d'ailleurs d'une occupation de plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. On y a trouvé des signes d'ailleurs. Et dans l'imaginaire même, Aussois a pu être, peut-être, la ville qu'on appellerait, ou le village qu'on appellerait, le dernier village gaulois, Ocelum, capitale du peuple gaulois des Graillocelles. Alors, on n'est pas sûr, il n'y a pas de traces historiques, mais ça a été rapporté par un chanoine qui s'appelle Don Rochet. Effectivement, pour l'imaginaire collectif, on aime à savoir qu'Aussois est finalement le dernier village gaulois. Ensuite, on fait quelques siècles et on va en 877 de notre ère. Le roi Charles II, le Chauve, a trépassé, pas loin d'ici. Il avait été accueilli préalablement par un charmant berger qui l'avait soigné, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Et il est passé de vie à trépas. Ensuite, on va faire quelques siècles encore, monsieur le maire, si vous voulez bien. On va aller sous Napoléon Ier. Vous savez, votre village faisait partie des 6 départements du Piémont qui avaient été rattachés à la France. Ensuite, abdication en 1815. Le village est rattaché au Piémont, du royaume de Piémont-Sardaigne, jusqu'en 1860, avec le traité de Turin, pour revenir à la France, et enfin, voilà, partie intégrante par la France, c'était Napoléon III, bien évidemment, qui avait travaillé sur ce projet du fameux traité de Turin. Un lieu célèbre, vous le savez, monsieur le maire, puisqu'en 1956, ça a servi de décor à un film qui s'appelle La meilleure part. Vous savez, c'est un film de Yves Allégret. Magnifique, magnifique, avec comme dans le rôle titre Gérard Philippe et Gérard Rouy. Vous savez, c'était dans le barrage de Plan d'Amont, c'était l'idée, c'était un livre. La meilleure part, c'est celui qui est prêt à sacrifier sa vie pour un ouvrage du génie civil, magnifiquement interprété par Gérard Philippe. Ensuite, je vous propose qu'on fasse quelques années, on est en 1963, c'est la création du parc national de la Banoise, qui a donné un élan extraordinaire, monsieur le maire. 28 communes, un élan pour les randonnées, pour le ski, pour le bien-être, la faune, la flore, l'été, l'hiver. Ça a été une formidable initiative.
C'était une création qui s'est faite un petit peu dans la douleur, il faut bien le reconnaître aussi.
Ça, c'est clair.
C'est une partie du territoire qui a été vécue comme amputée pour la collectivité et ses habitants surtout. Et aussi sur des domaines des propriétés privées. Et puis voilà, 60 ans, presque 60 ans après, effectivement, c'est une très belle carte pour le territoire. Pour les Aussoyens également.
Alors ça nous fait vraiment plaisir vraiment d'être avec vous parce qu'il y a vraiment une très très belle histoire dans ce village. Et ici, on est accueillis avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'amitié. Fleur et Neige, moi je trouve que le mot, ce nom assez bucolique finalement, presque romantique, nous replace dans le climat finalement de ce que représente l'idée en fait de l'accueil et de l'hospitalité qui est chère à votre village. Qualité d'accueil et d'hospitalité. Et d'ailleurs, on pourrait, si on voulait, monsieur le maire, peut-être chanter le chant des allobroges, qui est l'hymne de Savoie. Je ne sais pas si vous le connaissez. Vous le connaissez certainement.
J'en connais une partie.
Je ne vais pas vous demander de le chanter.
C'est gentil.
Voilà, je vais pas vous faire cet affront. Mais voilà, je rappelle juste que à nos amis qui nous écoutent que les Allobroges, c'était un peuple celtique qui a occupé le territoire 3 siècles avant Jésus-Christ. Encore faut-il, si on veut savoir où on va, savoir d'où l'on vient. Voilà, tout simplement. Voilà. Et je suis ravi donc d'être avec vous, monsieur le maire Stéphane Boyer. Et je me suis amusé à vous faire 2-3 trucs sympas pour vous, voilà, pour vous faire plaisir. Bon, est-ce que vous savez combien de maires en France s'appellent Boyer ?
Pas du tout.
33.
33, très bien, c'est la Gironde, c'est mon département d'origine, puisqu'effectivement, malheureusement, je ne suis pas de Savoyard.
Vous n'êtes pas d'ici, mais vous avez un accent savoyard.
Ah, mais ça fait quelques années que je vis en Savoie.
Ouais.
Mais à l'origine, je suis d'un petit village qui est aussi, paraît-il, un petit peu connu, puisqu'il s'appelle Saint-Émilion.
Vous êtes de Saint-Émilion, quelle chance vous avez. C'est extraordinaire.
Saint-Émilion en soi, ça va bien ensemble.
Alors, vous êtes chef d'entreprise, hein, vous êtes né en 1970, vous avez 53 ans. Et, alors, je voulais vous poser aussi une question, monsieur le maire, quand on est maire d'un village comme celui-là, est-ce que c'est pas, ça relève pas du sacerdoce ou de l'engagement ?
Il va falloir demander à bras raccourcis, puisqu'on fait à peu près la même chose. Hein, vous parliez des irréductibles gaulois, donc oui,
un
village avec de forts tempéraments, mais un village aussi qui sait faire cohésion dans la difficulté, ça arrive. Un village aussi qui sait d'où il vient, parce que je crois que même si on remontait à la préhistoire ou à l'histoire que vous avez évoquée, l'histoire plus récente, c'est l'évolution du village qui a évolué d'une agriculture, d'une économie agro-pastorale vers une première économie, on va dire, industrielle, c'est les barrages, et puis qui est très rapidement, tout le village, puisque c'est la volonté des jeunes de l'époque, de créer cette station et de se lancer dans l'aventure du tourisme. Voilà. Et là, tout le village a fait corps après débat. Et puis ça dure depuis, là aussi, presque 60 ans.
Merci, en tout cas, d'être présent. Quand vous voyez cette initiative, cette maison qui a été fondée en 1957, qui fait partie, il faut le rappeler quand même, d'une fédération qui a été créée en 1949, qui est la Fédération Cap France, qui regroupe à peu près une centaine de villages. Il faut quand même rappeler à l'époque que tout ça, c'est des formats associatifs. Et que le but de ces ouvrages, c'était de donner accès au plus grand nombre à des vacances dans de bonnes conditions. On va aussi rappeler le côté social et solidaire de cette approche. La députée Émilie Bonnivard parlait d'économie sociale et solidaire. On est en plein dedans, monsieur le maire.
Absolument. Il faut, voilà, les fondements de ces maisons s'inscrivent aussi dans ce qu'on a oublié peut-être et pourtant ô combien important, qui sont les congés payés de 1936, la première semaine de congés payés. Il va falloir, on incite les habitants, les Français, à aller découvrir aussi la France. Et puis pour cela, il y a l'État qui aussi est un acteur fondamental, qui va aider à financer des maisons familiales, puisque c'est leur nom d'origine, pour accueillir le plus grand nombre. Et à l'époque, ce sont des destinations modernes pour les familles, des lieux, pensez-vous, où on nous héberge, où on fait pas à manger, où on fait pas la vaisselle, où on prend le temps de vivre en famille. Vraiment, la révolution à l'époque dans les mentalités. Accessible au plus grand nombre,
voilà,
puisque beaucoup de gens allaient, malheureusement, ceux qui prenaient des vacances à l'époque, c'était des gens un peu plus aisés qui allaient dans les hôtels. Et là, la création des maisons familiales, du tourisme social, familial, solidaire et associatif, c'est la possibilité aux familles moyenne, de revenus moyennes, voire aux revenus faibles, vont pouvoir avoir accès aux vacances.
Dans les mêmes conditions, je trouve ça formidable. Parce que franchement, quand on voit le climat aussi social en France, c'est plus que jamais ce type finalement de fonctionnement qui est finalement inscrit dans l'histoire de notre pays depuis les années 50, avec, vous l'avez rappelé, les congés payés de 1936, pour rappeler que les congés payés qui ont été donnés ne donnaient pas la possibilité à tout le monde de pouvoir partir parce qu'ils n'en avaient tout simplement pas les moyens. Vous l'avez rappelé.
Absolument.
La justification.
Juste avant au départ de ces congés payés, on part en famille.
Exact.
Et on va donc retrouver ses familles, ses racines. Et puis après, le tourisme va se développer. Et pour cela, il y a un accompagnement pour effectivement créer ces maisons familiales, ces lieux collectifs qui sont à part. J'en parlais tout à l'heure. Ce n'est pas. C'est un esprit très particulier. C'est-à-dire qu'on va mettre en avant la solidarité, la cohésion, la convivialité, et ce qui fait que les gens se retrouvent dans leur maison. Et c'est pour ça que maison familiale, ça veut dire quelque chose. C'était leur maison de vacances, un lieu collectif avec des services. On se retrouve ensemble, et du coup, ça, c'est typique pour Fleur et Neige. On grandit dans cette maison, Et puis une fois qu'on a grandi, on a des enfants et on vient ici pour leur expliquer et pour leur faire vivre là aussi les mêmes émotions qu'on a vécues. Voilà, c'est une transmission aussi, Fleur et Neige.
Il faut rappeler aussi que c'est un gouvernement, il y a une gouvernance associative, donc c'est aussi les bénéficiaires de ce lieu qui participent à son développement. Frédéric Legrand, vous êtes architecte, vous avez travaillé sur la rénovation extraordinaire. Bon, alors, j'y suis puisque j'ai découvert des chambres aussi, puisque j'ai eu l'occasion d'arriver par le train de nuit ce matin, j'ai découvert ces chambres magnifiques. Alors, je rappelle quand même des chiffres importants. C'est un coût de rénovation de plus de 2 millions d'euros, 2 100 000 euros, c'est 43 chambres. 110 lits, créés donc en 1957 avec une piscine, et c'est aussi une des plus anciennes maisons familiales. Quel défi avez-vous dû faire face justement dans ce plan de rénovation pour donner aujourd'hui maintenant à cette maison ce qu'elle est aujourd'hui avec cette rénovation extraordinaire? Un projet dont vous avez rappelé, monsieur le maire, qui a été porté par des financiers qui ont concouru à son élaboration.
Alors, le premier enjeu sur ce genre de projet, c'est l'écoute. Puisqu'on a un client qui a un objectif, qui a un budget. Et puis, nous, on arrive de l'extérieur. Il faut d'abord écouter, comprendre, et puis proposer des solutions. Donc ici, on a effectivement rénové quasiment intégralement tous les niveaux qui concernent l'hébergement de nuit. Au départ, il y avait plus d'ambition sur d'autres parties du bâtiment. Donc il a fallu faire des choix. Il a fallu faire des propositions et puis mener à bien ce projet avec un budget qui n'était pas dépassable. Et puis un délai de réalisation qui était aussi un enjeu, puisque pour éviter de perdre de l'exploitation, c'est très important de respecter des plannings. Bon, il s'avère que la situation a fait que le moment de la réception correspondait à une période de fermeture, mais on s'est quand même tenu au planning
initial. Bien sûr, ben oui, bien sûr, bien sûr. En plus, effectivement, bon, il a échappé à personne que la crise sanitaire est passée par là et qu'elle a fragilisé l'ensemble des villages de la vallée, d'ailleurs. Il faut le dire. Hein, et qu'il y a eu un grand combat des politiques, justement, pour essayer de maintenir à flot, finalement, cette économie locale, qui reste fragile, hein, pour le rappeler. Vous l'avez dit tout à l'heure, donc... qui reste fragile, et donc effectivement trouver le bon compromis en termes, vous avez parlé effectivement du budget, c'est un budget important quand même, 2 millions d'euros pour rénover on va dire une maison de vacances, une maison familiale de vacances, c'est pas neutre.
Alors oui, aujourd'hui ce qu'on observe quand on se promène dans les chambres, c'est des lits neufs, des peintures refaites,
c'est clair.
Mais il y a tout ce qu'il y a derrière qu'on voit pas.
Ah oui.
On a remis le bâtiment à nu, il restait plus que les murs extérieurs et le toit. Et du coup, il y a bien beaucoup de travaux qui ne sont pas visibles, mais qui sont importants et coûteux. Donc voilà. Et puis après, il y avait surtout, pour nous, ce qui est important, c'est de jamais oublier que ce qui restera dans les esprits, c'est ce qu'on voit à la fin. C'est aussi l'accueil qui sera fait des vacanciers, donc comment ils vont percevoir ces chambres. Et là, il y avait une attente qui était grande par rapport à un bâtiment qui était vieillissant, une offre de service qui était plus adaptée. Donc, on est effectivement dans du tourisme social. Pour autant...
Oui, je suis d'accord. Oui, je vois ce que vous voulez dire.
Un service qui soit à la hauteur.
Mais bien sûr.
Et qui ne soit pas dégradé par rapport à...
Tourisme social, ça ne veut pas dire qu'on a droit à l'image kolkhozienne du dispositif.
Non, mais pour... Ce n'est pas une excuse pour proposer des stations de basse qualité. Au contraire, tourisme social doit avoir des standards. Et puis, parce que la société a évolué, donc on doit avoir des standards, je dirais, au minimum, ceux qu'on a à la maison. Voir un petit peu plus parce qu'on est en vacances. On est un peu plus exigeant en vacances.
Non, mais c'est vrai. Et puis bon, il y a une offre aussi intégrée. On peut se restaurer. Il y a un côté très accueillant. Il y a de l'espace. Les chambres, effectivement, ont une taille qui est tout à fait adaptée aux standards, j'allais dire, entre guillemets, de l'hôtellerie classique. Hein, on peut dire les choses comme ça. Mmh. Mais ça reste une offre, une proposition de valeur qui est intéressante dans ce cadre-là. Mais surtout, c'est le cadre familial, moi, qui me marque le plus, le côté familial, le côté collectif, collectif et familial. Monsieur le maire, c'est une ambiance très différente quand on vient dans... Même si on a des standards, comme vous le dites, assimilables à l'hôtellerie classique, il y a une ADN particulière.
Il y a deux choses. Il y a la prestation. Donc c'est la prestation effectivement que va définir Fleur et Neige, avec un accueil particulier, un accueil soigné, de la convivialité, puisque l'idée c'est aussi de vivre ensemble, mais chacun à son rythme. Ça veut dire que le collectif n'est pas imposé aux familles, et c'est le cas à Fleur et Neige. Donc ça c'est effectivement la prestation que va définir l'association et plus particulièrement l'accueil de Christophe, le directeur. Une équipe qui va être dévouée à ses vacanciers, c'est très, très important. Et puis effectivement, le tourisme social, bah, ça a longtemps souffert d'une image effectivement de social dans le mauvais sens du terme.
Mais oui, bien sûr. Hein,
on y va et puis ça sera pas terrible et puis on va manger beaucoup des pâtes et du jambon. On va le dire comme ça.
Bon, il se trouve qu'à... Des coquillettes et du jambon.
C'est ça. Il se trouve qu'à Forêt-Neige, on mange beaucoup de fondue et beaucoup de tartiflette et elles sont réputées. Et puis il y a un petit bar qui sert de l'apéritif local.
Ah, moi, si vous me dites fondue et tartiflette, comme on va rentrer que demain, je pense que...
Très bien. Genépi et chartreuse pour finir. Tout va bien. C'est ça aussi l'accueil convivial.
Ça, c'est une super idée.
Non, ce qui est très important, c'est de reconnaître aussi que dans ces accueils collectifs, oui, effectivement, ça a beaucoup évolué. Certes, il y a eu un temps où c'était très, j'allais dire, presque, voilà, un petit peu millimétré. Maintenant, tout est fait pour que les familles vivent ensemble, mais à nouveau, chacun à leur rythme. On n'est pas obligé, il n'y a pas des passages imposés de tout faire ensemble. Mais très souvent, l'esprit de la maison, l'esprit dégagé par les salariés, le conseil d'administration qu'il a voulu, eh bien, fait que les familles vont se rencontrer. Et très souvent, c'est un lieu effectivement où on se fait des amis. Et puis des fois, plus souvent, ça arrive, les jeunes vont se rencontrer. Et puis ça donne lieu à une nouvelle histoire, celle d'une famille.
Frédéric Legrand, le défi architectural dans des environnements climatiques comme ceux-là, est-ce que ça a un impact? Est-ce que dans votre façon de concevoir l'ouvrage d'architecture, que ce soit en rénovation ou simplement en construction, est-ce que vous avez il y a une particularité, une spécificité liée au territoire ou pas?
Bien sûr, oui. Nous, on est amené à intervenir que sur des projets en montagne. C'est notre choix et on valorise une expérience.
Oui, d'ailleurs, vous avez une réputation en la matière, hein, dans votre agence. Hein.
Donc, évidemment, il faut tenir compte de la saisonnalité sur l'exploitation, la saisonnalité sur les travaux et puis les conditions météorologiques particulières. Sur l'exploitation, on n'occupe pas un bâtiment de la même manière en montagne qu'on l'occupe dans la vallée. On n'y vit pas de la même manière, on n'a pas les mêmes attentes. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup d'éléments qui sont à prendre en compte dans la conception, sur les choix de matériaux, sur énormément de choses. Ouais.
En termes énergétiques, est-ce qu'il y a eu un travail de fait pour justement maîtriser les dépenses d'énergie et l'impact sur l'environnement?
Alors la particularité, c'est qu'on n'a pas repris tout le bâtiment, on est resté sur la source d'énergie d'origine. Et puis sur les travaux d'isolation, on a un bâtiment qui est composé de trois bâtiments en fait, qui ne datent pas des mêmes époques, qui ne sont pas de la même typologie, pas conçus pareil, pas avec les mêmes matériaux. Il y a une partie en pierre ancienne, une partie en béton récente, on ne l'isole pas de la même manière.
C'est clair.
Donc on a fait un peu un patchwork et puis trouver des compromis pour optimiser quand même au maximum les dépenses énergétiques et le confort des vacanciers.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus, monsieur le maire, pour ce bon village de soins?
Ben, une belle saison. Vous savez qu'on a vécu une saison très particulière.
C'est clair.
C'était une saison noire, non pas une saison blanche. Une saison noire, ça se ressent. Notre économie du village, mais également de la Haute-Maurienne, est vraiment liée au tourisme. Donc on va se souhaiter un très bon début de saison. C'est bien parti.
Ça a l'air d'être bien parti. Hein. Beaucoup de neige.
Tout le monde est motivé. On sait que les vacanciers, ça démange les spatules. Donc on est là, tout le monde est prêt.
La station est ouverte. Hein. La station est ouverte. Oui. On peut réserver, on peut venir.
On est là pour accueillir le plus grand nombre.
Voilà, on est à 7 km de la gare de Modane. On est vraiment à proximité de tout ici. Hein.
On est à 4 heures de Paris.
4
on
heures
a
de Paris.
L'autoroute qui se termine juste au pied de Modane. Donc
absolument.
Avec un accès très facile pour Rossoy. Des hébergements. Effectivement, il y a des villages vacances. C'est aussi la spécificité d'Aussoy. Il y a 4 villages vacances. Il y a des accueils de centres de vacances pour les enfants. Mais il y a également des hôtels qui sont très importants. Et 2 hôtels sur Aussoy. Et puis des résidences touristiques. Donc, il y en a pour tous les goûts à Aussoy. Je pense qu'on vit de belles vacances. C'est la station village des familles. Et je rajoute de toutes les familles.
Merci. On aura grand plaisir. Donc, on va venir vous voir régulièrement à Aussoy. Effectivement, que ce soit pour faire du ski l'hiver, mais aussi on peut venir l'été pour faire beaucoup de balades. Ici, la faune et la flore, c'est vraiment quelque chose qui est remarquable lorsqu'on a des enfants. C'est juste un paradis. Merci beaucoup, Stéphane Boyer. Je rappelle que vous êtes le maire de Soye. Je ne vais pas vous demander de faire le chant des allobroges, mais bon, l'idée est là. Merci encore une fois d'avoir participé à cette émission ici, dans cette maison Fleurs et Neige. Merci à Frédéric Legrand, le grand ordonnateur finalement de la rénovation de ce bâtiment, avec les défis dont vous avez parlé. D'ailleurs, derrière nous, il y a une espèce de grange où en pierre extraordinaire qui a dû être retravaillée. C'est absolument phénoménal de voir ces bâtiments qui se mélangent comme ça.
C'est là où on observe qu'on est sur deux strates. Et là, on est sur le sous-sol du bâtiment, qui est effectivement composé de voûtes. Qui sont...
C'est génial. Voûtes d'origine, hein ?
Oui, voûtes d'origine, oui. On a reprise sur les joints et les finitions, mais l'ouvrage est d'époque, oui.
Elle est super. Merci Frédéric Legrand. Je rappelle que vous êtes architecte OAP, l'agence d'architecture. C'est bien ça ?
OAP Architecture, oui.
Voilà, OAP Architecture. Merci encore une fois de nous avoir suivis. On va faire quelques autres interviews comme ça au fil de l'eau sur Territoria, sur Radio Immo. On vous souhaite une très, très belle journée. Et quand vous venez ici, ou souhaitez venir ici, vous venez ici à Fleurs et Neige, ou en tout cas, venez visiter ce bon village de Soie. Comme l'a dit Monsieur le maire, on est proche de tout. Merci à vous.
Merci à vous.
Merci à vous.
L'immobilier de tourisme au cœur des territoires, journée découverte en Savoie avec l'association Maison Familiale Fleurs et Neige, à suivre depuis Aussois près de Modane sur Radio Immo et Radio Territoria.